Alors, je commence donc par commenter très brièvement cette brève présentation, Évangile selon Saint Matthieu. On dit parfois en abrégé de Saint Matthieu, mais c'est selon Saint Matthieu, la bonne nouvelle, selon qu'il l'a reçue et nous la transmet. Le sous-titre, on le découvrira, sa portée au fur et à mesure. En Jésus, le royaume nous rejoint, porteur d'une justice nouvelle et source de béatitude. J'ai mis en italique trois mots clés déjà de l'Évangile. Le royaume qui s'approche, qui nous rejoint, parabole du royaume, etc. C'est une réalité importante, à tel point que dans les sous-titres qu'il donne à sa transposition du texte, le père Hadermakers fait régulièrement référence au royaume. Le royaume qui nous rejoint, le royaume qui nous touche en Jésus. Porteur d'une justice nouvelle, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, à entendre la justice de Dieu, c'est une réalité également importante. Souvenez-vous qu'à la réaction du baptiste, Jésus il nous faut accomplir toute justice. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes, des pharisiens, etc. Donc la justice du royaume, Matthieu la comprend d'une manière spécifique et c'est un thème qu'il déploie fort. Et source de béatitude, dans le premier grand discours, si vous voulez, de Jésus, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, vous connaissez la place des béatitudes que Matthieu a à cœur de déployer particulièrement si on le compare à Luc. Le premier évangile canonique est selon Matthieu. Canonique, c'est-à-dire l'ordre dans lequel il se présente dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça ne veut pas dire nécessairement le premier en date. Ce n'est pas exclu, mais on verra la question de la datation. Souvent, on s'accorde pour penser que Marc est peut-être le premier. On verra cette question. En tout cas, dans l'ordre canonique, le premier qui vient en tête, c'est, selon Matthieu, sans doute, jamais sûr à 100%, mais l'apôtre Lévi. Quand on compare les listes données des apôtres, on voit qu'on peut identifier Matthieu et le dénommer Lévi, qui tira de son trésor du neuf et du vieux. C'est une expression à la fin du discours en parabole. Tout scribe devenu disciple du royaume tire de son trésor du neuf et du vieux. Et donc, je commente un peu à la jointure des deux testaments. Puisque si Matthieu est familier du monde juif, il connaît bien le premier testament et de ce vieux, de son trésor, il découvre, il nous aide à découvrir la nouveauté du Nouveau Testament dans le Christ. Ces premiers mots, livre de la Genèse de Jésus-Christ, c'est une allusion quand même au tout premier livre de la Bible, en souligne l'enracinement dans une histoire d'alliance voulue dès l'origine. Matthieu va se centrer spécialement sur l'alliance avec le peuple juif, mais dès les premiers mots, il montre que c'est avec toute l'humanité que Dieu veut faire alliance. Et c'est à l'intérieur de ce projet que l'alliance plus spécifique avec le peuple élu vient avoir le jour. Étendue vers la consommation du siècle. Donc le premier mot de l'évangile, c'est livre Genèse de Jésus-Christ. Et les derniers mots, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, traduit-on couramment, c'est littéralement jusqu'à la consommation du siècle, entendu au sens du temps présent, du temps de l'histoire humaine. Au cœur de l'humanité chemine le peuple élu en vue du salut de tous. Il y a un choix particulier d'Israël, mais comment, à travers ce choix, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme on l'a entendu encore dans l'Écriture dimanche passé. Une expression de Paul à Timothée. Jésus le Christ, Emmanuel, fils de David et fils de Dieu. Alors les titres Christ, Emmanuel, fils de David, je dirais, sont plus spécifiquement juifs, si je puis dire. Le Christ, c'est le Messie attendu, Emmanuel, l'expression vient du livre d'Isaïe, on la retrouvera, fils de David, et fils de Dieu, là il est pour tout homme aussi. Accompli pour tous les figures les promesses et les écrits du Premier Testament. Et cela jusque dans la vie de son Église. Alors j'insiste parce que la réalité ecclésiale est fortement marquée dans l'Évangile de Matthieu. Je commente un peu ce mot, Église, que Matthieu seul l'utilise parmi les Évangiles. Paul parle des églises qu'il a fondées, à l'Église de Dieu qui est à tel endroit, mais dans les Évangiles, Matthieu seul utilise le mot Église, qui vient de Ecclésia, non, le grec. Et c'est un terme qui hérite du Kahal, ça c'est un terme hébraïque, qui désignait l'assemblée du désert que le Seigneur convoque et sanctifie. Vous savez que l'Ancien Testament a été écrit largement en hébreu. Le mot qui désigne l'assemblée, c'est le Kahal. Mais alors, lorsque l'Ancien Testament a été traduit en grec, déjà dès avant le Christ, pour des Juifs en milieu hellénistique, eh bien, il était ce mot rendu par Ecclésia. Et c'est ce mot Ecclésia qui va donner Église et qui est repris pour, par Matthieu. Matthieu sait bien que c'est un racinement dans l'assemblée du désert. L'Église n'est pas simplement comme face à Israël. Israël lui demeure source de bénédiction. Vous, l'importance des bénédictions dans le livre de la Genèse, au patriarche, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Israël demeure pour l'Église source de bénédiction et sa vocation à l'universalité, qui est marquée dans l'envoi final des 11, allez, toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, de toutes les nations faites des disciples. Donc c'est marqué cette vocation à l'universalité dans la fin de l'Évangile. Eh bien, la finale ainsi dilate Israël à la mesure de son horizon ultime, qui est d'être témoin du Seigneur pour toutes les nations. Alors Matthieu vise des lecteurs chrétiens, mais qui semblent bien issus du judaïsme. C'est-à-dire, il a l'air de présupposer qu'ils connaissent déjà quand même pas mal les Écritures. On leur verra. Mais dans l'ouverture missionnaire. Les chrétiens issus du judaïsme, mais qu'il va aider à s'ouvrir et à faire en sorte que l'Église ne soit pas composée seulement de chrétiens venus du judaïsme, mais aussi de chrétiens venus des nations. Évangile ecclésial, dont la fréquentation et l'usage liturgique furent très tôt déterminants. C'est à ce titre aussi qu'il est particulièrement marqué par la perspective ecclésiale. Et c'est une influence catéchétique, sacramentaire, pastorale, littéraire, doctrinale, dès les premiers siècles, dès le deuxième siècle, on voit que l'évangile de Matthieu est en faveur dans l'Église et sert beaucoup ainsi dans la catéchèse, la pastorale, la liturgie. Alors, la méthode, nous parcourons le texte selon ses étapes, mais forcément, comme ce n'est pas un cours de 30 heures, poserons des jalons, mais en creusant quand même certains passages, privilégiant certains passages, notamment des passages propres à Matthieu, comparés aux autres, et cela au gré de l'alternance des discours et des portions de récits qui leur font écho. Dans l'Évangile, il y a ce va-et-vient entre les sections davantage de discours suivis de Jésus et puis les portions de récits qui nous rapportent ce qu'il fait. Et les deux sont en écho. Au terme, on ressaisira quelques lignes de force. Voilà pour ce qui est de commenter ce que j'avais en tête en écrivant ces quelques lignes de présentation. Je vous invite à avoir sous les yeux la page 1, qui est notre feuille le plan de ce que je vais raconter, et puis au fur et à mesure de mon exposé, je convoquerai telle ou telle page. En préliminaire, il est bon, ça ne vaut pas simplement pour Matthieu, mais dans la mesure où il puise pas mal dans l'Ancien Testament, on va voir pourquoi ça vaut spécialement pour lui. Il est bon, lorsque nous nous mettons à la tâche, pour accueillir un évangile, le mieux le comprendre, de mesurer qui travaille. Pas que nous qui travaillons. Nous sommes héritiers de tout un labeur qui nous apprécie. D'abord, du labeur de Dieu lui-même, le Dieu de nos pères. C'est quand même lui qui a inspiré les écrivains de la première alliance. Donc, ce que Dieu a fait en inspirant tel prophète, etc., continue à porter son fruit à partir du moment où ces prophètes continue à être convoqué dans le texte même de l'évangile. Et c'est important pour Matthieu parce que le premier évangile est le plus riche en citations de l'Ancien Testament. Au moins une cinquantaine de citations explicites contre une grosse vingtaine en Marc ou Luc, par exemple. Et c'est des citations que soit le narrateur, l'évangéliste fait, ou bien qu'il nous donne d'entendre dans la bouche de Jésus, ou bien d'autres personnages. Mais l'Ancien Testament est largement cité. Donc, l'agir de Dieu par son esprit, à travers les écrivains de l'Ancien Testament, continue à opérer au moment où nous lisons. Deuxièmement, ce qui continue à opérer, c'est bien sûr la manière dont Jésus a accompli, a rempli, a commenté ses paroles, ses réalités de l'Ancien Testament, autrement dit, l'action du Verbe incarné lui-même. Jésus est le Verbe de Dieu. Donc, dans la bouche de Jésus, la parole de Dieu qui l'a précédé retentit d'une façon nouvelle. Il est bien l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans la puissance de sa résurrection, eh bien, ce qu'il a pu dire ou faire continue à nous rejoindre, à nous animer, à nous éclairer aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, il est à l'œuvre dans son Fils incarné pour nous. Et puis, le labeur de l'évangéliste et de la communauté ecclésiale qui l'a porté est aussi opérant. Nous en recueillons aujourd'hui encore les fruits. Le témoignage des premiers chrétiens, au fil de l'histoire de l'Église, de tous ceux qui ont été parfois jusqu'à donner leur vie pour ainsi nous convoyer la bonne nouvelle, eh bien, l'expérience qu'ils ont faite de Jésus, ou qu'ils ont recueillie, leur effort de mémoire, de compréhension, leur prédication, puis leur travail de rédaction, tout cela continue à nous nourrir. L'Évangile est né quand même du labeur, certes d'un évangéliste, mais au sein d'une communauté qui le portait en se souvenant, en comprenant les paroles de Jésus. Enfin, la tradition ultérieure de l'Église, qui nous a transmis les évangiles, bien sûr, c'est quand même une merveille que ces textes écrits il y a 2000 ans ne se soient pas perdus dans les sables, comme beaucoup de textes antiques, mais nous ont été transmis, et très fidèlement, en l'occurrence, et cela au prix d'un témoignage, et je le disais, parfois jusqu'au martyr. Dans la liturgie, dans la catéchèse, dans le travail des spécialistes bibliques, etc., au fil des siècles. Ainsi donc, lorsque nous travaillons à accueillir l'Écriture, il est bon de mesurer que notre travail s'adosse à une multitude, Dieu agissant par ses prophètes, son Verbe incarné lui-même, la communauté ecclésiale au départ, puis au fil des siècles, qui nous aide à mesurer la force de cette parole. Et bien sûr, en tout cela, comme le dit saint Paul, l'Esprit Saint lui-même se joint à notre esprit. C'est-à-dire, notre esprit se met en travail pour accueillir, mais animé par l'Esprit Saint. Et selon une expression que vous avez sans doute déjà entendue du Concile, l'Écriture sainte doit être lue et interprétée avec le même esprit qui l'a fait écrire. C'est-à-dire, c'est le même Esprit Saint qui a inspiré l'évangéliste, Matthieu, et qui aujourd'hui va ajuster notre effort de compréhension à ce que Matthieu a vraiment voulu dire. Donc c'est un travail, pas simplement technique, exégétique, mais c'est un travail aussi spirituel, d'accueil de ce que le Christ veut nous dire aujourd'hui. Voilà comme préliminaire. Alors c'est un évangile aussi, dans le concert des quatre. La tradition a tenu à retenir quatre évangiles canoniques, c'est-à-dire reconnus comme authentiquement inspirés et dignes de figurer dans le corpus reçu des Écritures. Ils sont d'une riche complémentarité, c'est comme une partition à quatre voix, si vous voulez. Selon une symbolique tirée des quatre vivants du livre de l'Apocalypse, qui se réfère lui-même au premier chapitre d'Ézéchiel, vous savez que le premier évangile, celui de Matthieu, l'évangile canonique, a été souvent associé à la figure d'un homme ou d'un ange inspirateur. Dans les représentations du Caravage, représentant Matthieu travaillant, on voit un ange guidant la plume de Matthieu. Un ange ou un homme, en raison de la généalogie sur laquelle il s'ouvre, commence de manière un peu généalogie, donc ça marque l'enracinement dans la pâte humaine, dans l'humanité de la venue de Jésus. Alors pour Marc, c'est le lion, parce que son évangile commence, il n'y a pas d'évangile de l'enfance chez Marc, on commence d'emblée avec Jean-Baptiste prêchant dans le désert. À l'époque du Christ, le désert est le lieu où, en marge du désert, on trouve des lions, l'animal du désert, là au début de son récit. Pour Luc, le symbole retenu, c'est le taureau, en référence au sacrifice, au début, de Zacharie dans le temple de Jérusalem, à l'heure du sacrifice du soir. Et pour Jean, c'est l'aigle au regard perçant et élevé, comme le fait déjà sentir le prologue de son évangile. Donc Matthieu, figuré souvent par un homme ou un ange, est l'un des quatre, et il est irremplaçable dans la symphonie des quatre. Et on va essayer de comprendre, de respecter aussi ses accents propres, son organisation propre. Il ne s'agit pas d'agglomérer purement et simplement les quatre en un seul. Sinon, ça voudrait dire que vous voudriez avoir une église avec un parvis roman, une nef gothique, un chœur baroque. Ben, ça n'a plus de... Non. Chaque église a son style propre. Mais lorsque dans une ville, on tombe sur une église romane, et puis gothique, puis baroque, on apprécie la complémentarité des styles qui sont autant de maisons de Dieu. C'est une comparaison pour nous dire que chacun des quatre est indispensable et qu'ils se complètent, si l'on peut dire, les uns les autres. Le mot évangile lui-même et son usage chez Matthieu. Au sens d'un des quatre textes qui racontent la vie de Jésus, comme lorsque nous disons évangile selon saint Jean ou Matthieu, le mot évangile ne se rencontre pas en ce sens avant la fin du, avant le deuxième siècle. Cependant, ce sens qui est devenu courant, les quatre évangiles, dit-on, pour désigner les quatre livrets qui nous consignent les paroles et les gestes de Jésus, eh bien, ce sens devenu courant s'appuie sur la façon dont Marc déjà débute son récit avec l'expression « commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ », dit Marc, de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, il n'entend pas nécessairement désigner le livret qu'il est en train de rédiger, mais l'annonce, le contenu de ce livret qui est une bonne nouvelle. Mais c'est ce premier verset qui a amené à comprendre l'évangile au sens d'un des quatre évangiles écrits. Alors que Paul, par exemple, dit « mon évangile » pour dire la manière dont moi je comprends et fais écho à la bonne nouvelle de l'évangile en général. Au départ, le mot « évangile », c'est « euangelion ». Angelion, vous reconnaissez le mot « angélique ». Un ange, c'est un messager. Et « e », c'est un préfixe qui veut dire « bien, bon » en grec. Et donc, littéralement, « euangelion », bon message, bonne nouvelle. Mais au départ, ça a un sens simplement profane. Ça peut être la bonne nouvelle que représente pour un roi l'annonce d'une victoire sur son ennemi. Rome parle ainsi de bonne nouvelle en rapport avec le culte impérial, pour l'intronisation de l'empereur après son triomphe, après une victoire. Alors, dans la Bible aussi, le mot connaît d'abord un usage parfois profane, qui désigne une nouvelle bonne dans l'ordre politique ou social en général, mais avec le prophète Isaïe particulièrement, l'utilisation du mot, du substantif évangile et du verbe évangéliser acquiert une connotation franchement de bonne nouvelle religieuse, enfin pour, au sens spirituel et religieux, sous le regard et l'agir de Dieu. Une connotation religieuse, notamment au chapitre Isaïe, au chapitre 40 à 46, à 66, surtout avec cette phrase que l'on trouve en Isaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction » pour porter la bonne nouvelle, littéralement évangéliser les pauvres, et sous cette forme verbale, donc cette occurrence qu'on trouve chez Isaïe, dans l'Ancien Testament, va passer dans le Nouveau Testament à partir du moment où les évangiles citent ce passage. Et spécialement au moment où en Saint-Luc, selon Saint-Luc, Jésus tombe sur ce passage d'Isaïe et le lit dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé évangéliser. Et donc le mot d'Isaïe, hop, par cette citation faite par Jésus et par l'évangéliste, va passer dans le Nouveau Testament et commencer à désigner la bonne nouvelle qui nous advient en Jésus lui-même. Les mots, donc ça c'était pour le premier point, de l'usage initial profane à l'usage biblique, puis évangélique. Deuxième point, évangile et évangélisé dans le Nouveau Testament. Quelles sont les occurrences et les sens du mot ? Je vous invite à avoir déjà en regard la page 2 sous les yeux, où on a les occurrences que l'on trouve dans le texte de Saint Matthieu. Alors vous voyez que le mot évangile, que j'ai entouré d'un rectangle, en 4, 23, 9, 35, 24, 13, 26, 12, apparaît 4 fois le substantif évangile chez Matthieu, plus chez Marc, 8 fois, mais il n'apparaît pas chez lui. Par contre, Matthieu va utiliser non seulement le mot évangile, mais aussi parfois le verbe évangéliser. On trouve chez Luc assez bien dans les Actes. Mais l'occurrence de Matthieu, elle apparaît, vous voyez, en 11.2, là où ce que Jésus proclame dans la synagogue à Nazareth chez Luc, il le dit dans un autre contexte chez Matthieu, au moment où les disciples de Jean viennent interroger, Jésus répond en citant Isaïe, « Annoncez à Jean ce que vous entendez et regardez, des aveugles lèvent le regard, etc. » Et des pauvres sont évangélisés. À ce moment-là, Jésus reprend la forme verbale du texte d'Isaïe dans sa réponse. Par parenthèse, chez Saint Jean, on ne trouve ni le substantif ni le verbe. Ça ne veut pas dire que la réalité n'y est pas, mais voilà, c'est une caractéristique. Alors vous savez que chez Saint Paul, l'usage aussi bien du substantif que du verbe est abondant. Ça c'est pour les occurrences. Donc il n'apparaît un peu moins chez Matthieu que chez Marc, mais on va voir tout de suite sur la feuille que je vais commenter que les occurrences sont déterminantes et structurantes. Le sens du mot dans le Nouveau Testament, il peut désigner le fait d'opérer l'annonce de la bonne nouvelle. On dit évangéliser les nations, mais c'est opérer l'annonce de la bonne nouvelle. L'évangile, ça peut désigner le contenu de cette annonce. Et c'est comme ça que Paul désigne globalement le cœur de sa prédication. Et à la limite, la bonne nouvelle en personne, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui est bonne nouvelle par excellence pour nous. Ainsi, l'expression « bonne nouvelle de Jésus-Christ » peut signifier tout à la fois la bonne nouvelle qu'apporte Jésus-Christ, la bonne nouvelle qu'il est en sa personne, la bonne nouvelle entendue comme l'annonce, la prédication qui le fait connaître, et enfin, au sens courant d'évangile, un des quatre livrets qui véhicule cette bonne nouvelle sous la forme d'un récit. Alors chez Matthieu, ça c'est de manière générale. Maintenant, chez Matthieu, prenons la page 2. Les quatre occurrences sont alignés à gauche sur votre feuille du substantif évangile. Elle se distribue clairement en deux binômes. Vous voyez, en 4, 23 et 9, 35, qui sont à mettre en parallèle, ce sont deux petits sommaires, c'est-à-dire des résumés de l'activité de Jésus. Jésus parcourait la Galilée tout entière, enseignant, proclamant l'évangile du royaume et soignant toute maladie, et pratiquement à l'identique en 9, 35. Bref résumé. D'autre part, le second binôme des occurrences, c'est en 24-13 et 26-12. Ce sont deux annonces promesses qui sont à mettre aussi en relation. Vous voyez, cet évangile-ci du royaume sera proclamé dans l'univers tout entier. Il fait écho un peu plus loin, là où cet évangile sera proclamé dans le monde tout entier. d'entrée de jeu dans le premier binôme, donc en 4.23.9.35, la proclamation est mentionnée dans une triade de verbes, enseigner, proclamer, soigner ou guérir. Ainsi, la proclamation de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle, appelle corollairement un enseignement plus approfondi de la part du Christ. Il y a la proclamation première, l'annonce première, et puis l'approfondir. Et elle va de pair aussi avec l'agir bienfaisant en faveur des malades. C'est dit, dans l'Évangile, on va trouver une alternance de discours de Jésus et de récit. Alors, comment ce qui se passe, ce que Jésus fait, correspond-il à ce qu'il dit ? Enseignant, proclamant, soignant, guérissant. La proclamation est intrinsèquement liée à l'attestation de toute sa personne. Dans les quatre cas, le substantif évangile dépend toujours d'un verbe important qui est le verbe proclamer, que j'ai mis en grâce, à proclamer l'évangile, proclamer l'évangile. Tu vois le verbe dont dépend le substantif. C'est le verbe du kérigme, comme on dit parfois, ce mot un peu technique qui désigne la proclamation. Quand on parle du kérigme, ça veut dire le cœur de la proclamation chrétienne. C'est un verbe kérusso dans le grec qui veut dire proclamer. Et le cœur du kérigme, c'est le mystère pascal. Le Christ mort et ressuscité pour nous. Eh bien, c'est de ce verbe qui dit le kérigme, kérusso, proclamer, que dépend chaque fois le terme évangile. Ça nous rappelle aussi que l'Évangile, avant d'être écrit, a été l'objet d'une proclamation vraiment orale, en quelques décennies. Entre les deux binômes, l'unique usage du verbe évangéliser, je l'ai déjà pointé en 11.2, c'est dans la reprise du passage d'Isaïe que je mentionnais. Du premier binôme, 23.9.35, au second, en bas de la page, il s'opère un changement. Dans le premier, qui utilise le mot évangile ? C'est le narrateur, l'évangéliste, qui nous dit Jésus parcourait en proclamant l'évangile. C'est lui qui tient là, qui utilise le mot évangile. Pour nous dire comment Jésus opère dans le cadre modeste encore de la Galilée, de ses villes, de ses villages. Mais dans le second binôme, là en 24 et 26, au chapitre 24 et 26, c'est Jésus lui-même qui utilise le mot. Et pour nous annoncer la proclamation future de l'Évangile, nous promettre qu'elle va réussir. Cet Évangile sera proclamé dans l'univers tout entier, dans le monde tout entier, par les missionnaires ecclésiaux, dans un cadre maximal. Autrement dit, ça esquisse une dynamique. On est parti de la Galilée, au chapitre 4 et 9, et vers la fin, on aboutit à la perspective d'une annonce de l'Évangile dans l'univers tout entier, après la résurrection du Christ dans le dynamisme de l'Église. Trois fois sur quatre, dans les quatre occurrences, l'Évangile est directement associé au terme, au vocable de royaume. C'est l'Évangile du royaume, l'Évangile du royaume, l'Évangile du royaume. Les deux vont de pair. Nous creuserons cette insistance. Trois fois l'affirmation « Le royaume de Dieu s'est approché » que j'ai reprise alors plus vers le centre du texte. J'ai noté ces affirmations, non seulement le royaume dans l'expression « l'évangile du royaume » mais là où l'évangéliste ou bien le baptiste qui dit « Le royaume s'est approché » chapitre 3, Jésus qui reprend la proclamation du baptiste, le royaume des cieux s'est approché. Et puis, au chapitre 10, ce que Jésus confie à ses disciples de dire, dites que le royaume de Dieu s'est approché. Oui. C'est toujours intéressant de s'interroger dans la bouche de qui entend-on le propos. C'est Jean-Baptiste qui nous dit le royaume de Dieu s'est approché. Puis c'est Jésus dans la foulée qui dit le royaume de Dieu s'est approché. Et puis au chapitre 10, c'est Jésus qui, en voyant ses disciples, leur dit, dites aux gens, vous, le royaume de Dieu s'est approché. Voilà comment les choses arrivent. Vous voyez comment, en regardant un peu attentivement les occurrences de ce mot, on découvre déjà un certain nombre de choses. J'en viens à dire un mot, je vais essayer de ne pas être trop technique, de la question synoptique et des datations, c'est-à-dire comment situer Matthieu par rapport aux deux autres évangiles qui lui sont plus proches, Marc et Luc. Vous savez que dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et puis bien sûr Jean, ces trois-là sont appelés des signes optiques. Pourquoi on peut les regarder optiques signes ensemble pour les comparer? Et une synopse, c'est un livre dans lequel vous avez pour tel passage, de la programmation du Baptiste, des colonnes différentes où vous avez ce qu'en dit Matthieu, ce qu'en dit Marc, ce qu'en dit Luc. S'il n'y a rien dans une colonne, ça veut dire que tel épisode n'est pas présent chez cet évangéliste-là, etc. Je vous montrerai ça la fois prochaine. Et donc, quand j'en prends le mot synoptique, je désigne les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Alors, on peut voir quelques données de départ. Je vous invite à prendre la page 3. Cette fois-ci, un regard. Si vous comparez les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, d'abord en tête, j'ai mis la longueur en termes de chapitres et de versets. Matthieu, 1065 versets. Marc, beaucoup plus bref, 661. Et Luc, c'est pratiquement le double de Marc, 1150 versets. Ça donne une idée des proportions. On comprendra pourquoi Marc est plus bref. Marc est essentiellement narratif, il reprend très peu de discours de Jésus. Donc, toutes les portions de discours qu'on trouve en Matthieu ou Luc, soit chez les deux ensemble, soit chez l'un ou l'autre, bien, on ne les trouve pas chez Marc, c'est une des choses qui explique sa brièveté. Alors, il y a des passages, un certain nombre de versets que les trois évangiles ont en commun. C'est ce que j'ai mis en tête, environ. On peut toujours discuter si deux versets, enfin chez Matthieu ou Luc, doivent être considérés comme parallèles ou des versions différentes. Donc, il y a un peu de variation dans les chiffres, mais c'est pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Grosso modo, il y a 330 versets qui sont unanimement chez les trois évangélistes. C'est ce qu'on appelle la triple tradition. Donc, selon ce que Matthieu, Marc et Luc ont en commun, grosso modo, même s'il y a des petites différences de vocabulaire, mais on peut les comparer. Alors, un second élément, c'est les versets que Matthieu a en commun avec Marc, 270. Mais ce qui veut dire, on arrive déjà pratiquement au total de Marc, qui, en bas du tableau, n'a que très peu de versets qui lui sont propre. Ce qui veut dire que Matthieu a, dans le ranking, tout l'équivalent de Marc et plus encore. Et vous voyez que Matthieu et Marc, voilà, si vous additionnez les 330 et les 270, un bon paquet de versets qui leur sont communs. Tandis qu'il y a une série de versets qui sont chez Marc, on ne trouve pas chez Luc. Par contre, si je descends, alors là vous voyez que Matthieu et Luc ont des versets en commun et qu'on ne trouve pas chez Marc. Ce sont surtout des passages de discours. On ne trouve pas chez Marc puisque Marc n'a pratiquement pas de discours. Et cela, on désigne du terme technique de double tradition. Enfin, si vous regardez le bien propre, c'est les cases du bas de chacun des évangélistes, qu'on trouve surtout au début, à la fin de leur évangile, ou chez Matthieu dans des passages de discours qui lui sont propres, on verra ça dans le sermon sur la montagne, il y a des choses en abondance chez Matthieu qu'on ne trouve pas chez Luc, des choses comme ça. Eh bien, vous voyez que Matthieu a 260 versets qui lui sont propres, Marc très peu. Et Luc, par contre, la moitié de son évangile, lui est propre, n'a pas d'équivalent chez Matthieu ou chez Marc. Ce sont tous ces passages, soit de récits, soit de paroles, soit de paraboles, qui permettent à Luc de déployer certains accents qui lui sont davantage chers, comme l'insistance sur la miséricorde, le partage au niveau des biens. On est en train de lire l'évangile de Luc dimanche. Vous voyez que les réalités du partage, faire attention aux pauvres, etc. La parabole du bon samaritain, la parabole du père qui va revenir son fils prodigue, tout ça, c'est chez Luc. Et donc, c'est dans le bien propre de Luc qu'on retrouve tous ces accents, ces insistances qui lui sont. Mais retenez simplement de ceci, ce qu'on appelle triple tradition, c'est ce que les trois ont en commun. Ce qu'on appelle double tradition, c'est ce que Matthieu et Luc ont en commun. Et la triple tradition est surtout au niveau narratif, et la double tradition est surtout au niveau de parole, le discours de Jésus. Alors, comment comprendre ces similitudes et ces différences? Est-ce que l'un a influencé l'autre? Oui, non, dans quel ordre? C'est ça la question synoptique, de voir qui aurait écrit en premier lieu et un autre aurait eu son texte sous les yeux, l'aurait soit abrégé, soit complété, c'est toute cette question-là. Et donc, ce que les synoptiques ont en commun de différent s'expliquerait en partie par leur genèse rédactionnelle. D'abord, une première chose, au niveau de la triple tradition, de la double tradition, les similitudes sont quand même tellement fortes à certains moments qu'on doit penser qu'il y a eu des contacts au niveau littéraire. C'est-à-dire qu'un a eu sous les yeux une première mouture, au moins, d'un autre. C'est pas simplement à travers la tradition orale, c'est tellement précis qu'on peut penser qu'il y a eu des contacts littéraires. Ça, c'est une chose. Les questions de dépendance d'un écrit par rapport à un autre sont inséparables des questions de datation. Si vous dites B hérite de A, et de ce qui était plus réduit chez A a fait quelque chose de plus amplifié, ça veut dire que vous postulez au point de vue date que A est rédigé avant B. Donc, forcément, les choses pensent. Alors, il y a des questions, la question est difficile parce que si vous avez des similitudes entre A et B, il y en a une et puis une autre, et que vous voyez que A a une version plus longue, B une version plus brève, S B qui avait A sous les yeux et l'a abrégé, et A qui avait le plus bref sous les yeux et l'a amplifié. En quel sens va l'influence? Est-ce que c'est le plus long qui a amplifié le plus bref? Est-ce que c'est le plus bref qui a abrégé le plus long? Donc, c'est pas toujours facile de savoir quand on se dit qu'il y a un rapport entre les deux, mais dans quel sens va-t-il? Alors, parmi les théories qu'on a recueilli, la théorie des deux sources, si vous voulez, est parmi diverses hypothèses celle qui est la plus encore en référence. Qu'est-ce qu'on entend par théorie des deux sources? Voyez sur votre feuille, je vous ai mis un petit schéma. Selon cette théorie, les deux évangiles que sont Matthieu et Luc auraient eu deux sources. Ils auraient puisé tous les deux chez Marc, et ils auraient puisé tous les deux aussi dans une source qu'on a plus, qui est considérée Quelle, c'est un mot allemand qui veut dire source, qui aurait contenu surtout des paroles de Jésus. On n'a plus comme telle, mais on voit bien que il y a une série de paroles de Jésus qu'on retrouve chez Matthieu et chez Luc qui ont l'air de dépendre de cette source-là. Alors, en quoi ça rend compte, au mieux, de ce qu'on a observé? Il y a triple tradition, là où Marthe
pour le donner surtout narratif, aurait influencé Luc et Matthieu. Ça fait trois. Et si ces deux-là dépendent de celui-là, ben forcément, il y a une série de versets, c'est les 330 versets qu'on trouve chez les trois. Il viendrait de Marc, repris par Matthieu et Luc. Tandis que la source Q, qu'on n'a plus, qui est des paroles surtout, elle n'est pas chez Marc. Marc a très peu de discours. Il n'a pas influencé Marc. Par contre, ce qu'on appelle la double tradition, c'est-à-dire ce que Matthieu et Luc ont en commun, je vous l'ai dit, c'est surtout des passages de discours. Et à ce moment-là, ça s'expliquerait par le fait qu'ils auraient puisé dans une seconde source qui contenait surtout des paroles. Donc ceci, ce que j'ai entouré, ça rencontre de la triple tradition, qui est surtout narrative, et ceci, qui dépend de Dieu, ça rencontre de ce qu'on appelle la double tradition. Ce qui est commun à Matthieu et Luc, et qui sont davantage des paroles. Triple tradition, surtout narrative. La double tradition, surtout des paroles discursives. Donc on a d'abord observé les faits, on s'est demandé d'où ça vient, et voilà la théorie, ce qu'on appelle des deux sources, c'est-à-dire Matthieu et Luc auraient à leur origine deux sources, davantage Marc pour les parties narratives, davantage une source plus pour les paroles de Jésus, sans compter avec ce qu'ils ont en propre. Hein, on a vu que le bien propre de Luc est fort, et que Matthieu aussi a un bien propre. L'évangile de l'enfant chez Matthieu a des choses qu'on ne trouve pas dans l'évangile de l'enfant chez Luc, et réciproquement.
Okay. C'est ce qu'on appelle la théorie des deux sources. Alors les pages 4 et 5 que j'ai mises à votre disposition, sont des pages qui rendent compte un peu des diverses hypothèses, par exemple la page 4, mais c'est la cinquième qui est à privilégier, enfin qui est la plus en cours, la théorie de source, Dieu, Marc. Hein, ce que je viens de vous expliquer, c'est le schéma 5. D'accord ? Tandis qu'avant ça, on s'est demandé s'il n'y avait pas eu, il y a diverses hypothèses, un évangile primitif qui aurait influencé tous les trois, ou bien ça serait un peu comme les pièces d'un puzzle, il y avait des petites portions de paroles, de récits, et chacun des trois, dans cet ensemble de pièces de puzzle, a choisi l'un, celle-ci, cet ensemble de pièces, et un autre, etc., avec parfois des regroupements. Trois, vous voyez que c'est des lignes en pointillés, ça veut dire on essaye de rendre compte des choses à partir de la tradition orale, simplement. Quatre, une autre hypothèse. Mais toutes ces premières hypothèses, 1, 2, 3, 4, n'arrivaient pas à rendre compte de suffisamment de faits. C'est encore la théorie des deux sources qui rend le mieux compte de l'ensemble des faits observés. Quitte à être, c'est le schéma 6, affiné, c'est-à-dire que dans la source Q, on distingue deux stades ou des choses comme ça. N'en dis pas plus, c'est pas le lieu d'être trop technique. Enfin, la page 5, pour terminer avec cette question. Des recherches, quelques recherches et propositions récentes. Le schéma que vous avez, je pense que ce ne serait pas nécessairement Marc en son état final qui aurait pu influencer Matthieu et Luc, mais à un premier stade de Marc. On part d'un évangile sémitique à Jérusalem, donc un évangile qui serait d'abord écrit en hébreu et qui aurait inspiré une première phase sur le chemin qui va mener à l'évangile de Matthieu, une phase intermédiaire sur le chemin qui va amené à l'évangile de Luc, et que c'est ces stades intermédiaires de l'évangile de Matthieu, ce qu'il appelle le pré-Matthieu et le pré-Luc, qui auraient influencé Marc dans son état final. L'enjeu, vous voyez que dans cette théorie-ci, c'est que Marc est placé le premier dans le temps. Dans ce schéma-ci, et je n'entre pas dans les détails, mais qui est argumenté assez intelligemment, on montre que Marc, en son état final, n'est peut-être pas le premier dans le temps. Peut-être que Matthieu et Luc lui sont de peu antérieurs. Il y a un témoignage des pères de l'Église qui disent « Les évangiles qui contiennent des généalogies ont été rédigés en premier lieu. » Quels sont les évangiles qui contiennent des généalogies? C'est Matthieu et Luc. Donc, ce que je viens de vous expliquer, retenez que c'est la théorie la plus en cours, mais que c'est une question quand même encore discutée, et qu'il n'est pas exclu que peut-être Matthieu et Luc soient un petit peu antérieurs à Marc en son état final. Ça demanderait des explications trop techniques. Ce que je veux souligner pour terminer, c'est la question de la datation. Les évangiles de Matthieu et Luc sont sans doute rédigés dans les années 70. Selon la théorie des deux sources, ça serait un petit peu avant 70. Matthieu et Luc, plutôt dans le cours des années 70. Ce qui veut dire une quarantaine d'années après la mort du Christ. La tradition orale a eu le temps de se déployer, mais même à 40 ans de distance, si vous demandez à vos parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, etc., il y a quand même des événements, des propos, des journées marquantes qui demeurent dans la mémoire de manière indélébile. Quand on a vécu la passion du Fils de Dieu, qu'on a crucifié, ben, même à 40 ans de distance, on peut faire une relation assez précise des choses. Ceci pour dire le caractère anthropologiquement vraisemblable aussi d'une rédaction qui soit fidèle à l'essentiel de ce que Jésus a dit et fait, même à quelques dizaines d'années de là. Et d'ailleurs, souvent un certain recul par rapport aux événements est la condition pour en donner un récit qui en dégage le sens. Quand on est le nez collé sur les événements, sont les disciples d'Emmaüs, on a du mal à dégager le sens des choses. Quand l'Église, déjà pendant 20-30 ans, a vécu de la mémoire du Christ, qui a prêché la proclamée, le temps est venu de pouvoir mettre par écrit des évangiles qui ne sont pas simplement des procès-verbaux collés sur les événements, mais qui dégagent déjà une certaine intelligence du message du Christ. Alors la tentation d'une datation trop précoce, eh bien, postule à tort qu'il faudrait nécessairement être le plus proche des événements pour être le plus fidèle. Je viens de vous dire qu'au niveau de la compréhension, ce n'est pas nécessairement vrai. Et par contre, une datation, certains auteurs dans les années 80 ou 90, a parfois servi de prétexte à certains exégètes allemands notamment, pour dire, ben, vous voyez, entre le Jésus de l'histoire tel qu'il a vécu et le Christ de la foi que nous présente l'Église, il y a un fossé, hein, les évangiles sont largement affabulés par rapport à ce qui s'est passé, etc. Et on distend le temps, on dit, vous voyez, il y a 50 ans qui sont passés, on a eu le temps de voir les choses se déformer, etc. C'est pour que vous mesuriez que derrière les questions de datation, il y a des questions de conception aussi de ce qu'est le genre littéraire évangile et d'enjeux ecclésiaux. Est-ce que les évangiles que nous avons sont, oui ou non, suffisamment fidèles à Jésus tel qu'il a parlé, vécu historiquement, sans pour autant être, comme je disais, des procès-verbaux au sens où on l'entend maintenant. C'est ça un peu l'enjeu. Alors, le genre littéraire et théologique évangile, c'est le point 3. Je vous ai, oui, on dit un tout petit mot. Voilà. Jésus n'a pas écrit lui-même. Le christianisme n'est pas une religion du livre avant tout, mais d'une personne. Et dont le livre, les évangiles, se font évidemment l'écho dans une prédication vivante. Jésus a quand même eu cette humilité formidable de ne pas écrire lui-même, alors que Jésus savait écrire, avait appris quand même à la synagogue, etc. Il a fait confiance à ses disciples, à l'Esprit-Saint, pour que ce qu'il en était de sa vie, de ses paroles, transmises par écrit. Il y a 4 évangiles. J'ai dit un petit mot tantôt du fait qu'il y a à respecter leur spécificité. La rédaction définitive des évangiles est quasi certainement postérieure à la rédaction de la plupart des lettres de Paul. Vous mesuriez aussi. Les premières lettres de Paul, c'est communément considéré comme étant les 2 lettres aux Thessaloniciens écrites vers l'an 50-51. Donc Paul écrit début des années 50. Et donc les évangiles, a supposé même que Marc soit fini des années 65, par là, sont largement, au moins presque une quinzaine d'années, postérieures aux premiers écrits de Paul. Donc on a cette chose étonnante, c'est que Paul, à partir de sa rencontre du ressuscité à Damas, offre, c'est le contenu de ses lettres, qui sont d'un genre littéraire différent des évangiles, mais offre déjà comme une réflexion seconde sur le mystère essentiellement de la mort et de la résurrection du Christ. Paul ne nous raconte pas la vie de Jésus qu'il n'a pas connue comme les 12, hein, mais il offre comme déjà une réflexion théologique seconde, alors que le récit même, dans le temps, viendra plus tard. Alors ça ne veut pas dire que le récit dans la prédication orale n'était pas déjà chargé aussi d'une théologie. Mais, bien sûr, ce sont deux genres littéraires différents, mais il y a quand même ce fait étonnant, c'est que, avant même que soit consignée par écrit la parole et la vie de Jésus, eh bien, Paul a déjà offert une réflexion théologique spirituelle sur le cœur de l'Évangile, qui est le mystère pascal. La vérité historique des Évangiles, un témoignage enraciné dans l'histoire. C'est saint Jean qui parle de son évangile en termes de témoignage. Celui qui a vu ces choses en témoigne, son témoignage est véridique, hein, à la fin de son évangile, etc. Et donc, lorsqu'un évangéliste prend la plume, comme vous le disiez, à l'intérieur d'une communauté ecclésiale, il ne veut pas faire simplement œuvre d'historien au sens moderne où nous l'entendons, il veut, en racontant, témoigner de la connaissance qu'il a de Jésus et de la compréhension qui lui est accordée en étant inspiré de ce que Jésus a dit et fait. Alors, un témoignage, ça ne veut pas dire que c'est inconsistant par rapport à l'histoire, puisque lorsqu'on fait un constat, on parle de témoin oculaire, etc. Mais vous sentez que j'entends le terme de témoignage comme engageant aussi la foi de celui qui écrit ici. Ce n'est pas un témoin neutre qui dit bon, « j'ai vu ceci ». Non, la manière dont il raconte ce qu'il a vu et entendu témoigne déjà de sa foi. Et en tout cas, il faudra éviter 2 excès qui seraient de sous-historiciser les évangiles en disant ben, « leur rédaction » par rapport à ce que Jésus a réellement fait, connu, en lien assez large. Non, il y a des points d'ancrage réels dans l'histoire de ce que Jésus a dit et fait, spécialement pour le récit de la Passion, qui dans le récit des évangiles occupe évidemment une place et un détail beaucoup plus grand. On vous raconte 2 mois de ministère de Jésus en les résumant en 3 lignes, mais pour les 3 jours du Triduum Pascal, on prend le temps. Donc là, on a des points d'ancrage dans l'histoire réellement advenue et qu'il ne s'agit pas de sous-estimer, de sous-historiciser. Il ne faut pas non plus, ça serait un autre excès, sur-historiciser le récit évangélique en le lisant un peu d'une manière fondamentaliste, en disant les choses se sont passées point par point comme ça. On va voir dans les évangiles de l'enfance qu'il y a des points d'ancrage dans l'histoire, mais qu'il y a aussi une manière de les raconter qui fait partie d'une élaboration théologique. Ça ne veut pas dire des élucubrations, mais ça veut dire une manière de comprendre ce qu'on rapporte, déjà notamment pour Matthieu, à la lumière de l'Ancien Testament. Ce n'est pas simplement un compte-rendu factuel. Marie et Joseph partent sur un petit arbre en Égypte, c'est pas vrai. Non, qu'est-ce que ça veut dire d'Égypte, j'ai appelé mon fils par rapport à cette parole tirée de l'Ancien Testament, etc. On verra cela. Donc, ne pas sous-historiciser, ne pas sur-historiciser non plus le récit évangélique pour en faire une lecture simplement pleine. Dans la Constitution, trois étapes dans la Constitution des Évangiles, l'expérience directe, les évangélistes sont quand même, dans le cas de Matthieu, on peut penser que c'est l'apôtre Lévi lui-même, c'est pas sûr 100%, mais c'est quand même très probable. Dans le cas de Jean, c'est soit le Jean disciple, soit c'est la tradition qui vient de lui, a peut-être été dans la rédaction finale de l'évangile reprise par ce qu'on appelle une école joannique, mais ça s'enracine quand même sur les témoignages de l'apôtre Jean. Donc, Matthieu, Jean, Marc et Luc ne sont pas des apôtres du Seigneur, mais sont des disciples. Luc a été spécialement compagnon de route, semble-t-il, de Paul, ici. Marc a été, semble-t-il, proche de Rome, proche de Pierre, qui a terminé à Rome. On voit qu'il explique des choses pour les lecteurs aussi romains. Et donc, l'expérience directe de la relation des disciples avec Jésus, directe dans le cas de Matthieu et de celui qui est à la base de l'évangile de Jean, ou bien dans le fait de côtoyer des gens qui sont encore de la première génération apostolique, c'est-à-dire qui ont encore connu ceux qui ont côtoyé Jésus de son vivant. Deuxième étape, l'annonce, la proclamation de la bonne nouvelle par les apôtres. Le texte écrit est héritier de la manière dont les choses ont été d'abord proclamées oralement pendant 20-30 ans. Et vous savez qu'à force de redire des choses décisives, elles s'ancrent dans la mémoire aussi. Enfin, troisième étape, on passe de l'oral à l'écrit et c'est consigné progressivement dans quatre évangiles. Peut-être qu'il y a eu des fragments de rédaction d'abord et puis à un moment donné, on arrive à la rédaction finale d'ensemble. Le caractère inspiré des évangiles, je vais terminer par là. Je disais, l'Esprit est à l'œuvre pour nous aider à comprendre le texte, et c'est le même Esprit Saint qui a été à l'œuvre pour aider le dénommé Matthieu à nous offrir un évangile. Comment l'Esprit Saint a-t-il agi au début de l'Église ? D'abord en rappelant à ceux qui avaient côtoyé Jésus, ce qu'il avait fait et dit. Dans Saint Jean, l'Esprit Saint vous rappellera toutes choses, dit Jésus à ses disciples à la fin. Donc il les aide à se souvenir. Mais il pouvait se souvenir quand même de beaucoup de choses sur 300 ans. Or, les évangiles sont quand même étonnamment sobres. On n'a pas fait un livre de 300 pages d'un évangile. Marc, c'est quand même bref aussi qu'un évangile. Ce qui veut dire que l'Esprit Saint les a aidés à choisir dans le matériau et les souvenirs dont ils disposaient ce qui suffirait à leurs propos. C'est Saint Jean lui-même qui nous dit « Si on devait raconter tout ce que Jésus a fait et dit, le monde entier ne suffirait pas à compter les livres qu'on en écrirait. » Il veut dire au niveau de la richesse théologique, bien sûr, mais enfin, c'est quand même symptomatique. Donc, l'Esprit Saint les a aidés à se rappeler, à bien choisir dans leurs souvenirs, à progressivement entrer dans l'intelligence des paroles de Jésus. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris d'emblée. C'est toujours en Saint Jean, l'Esprit Saint vous guidera vers la vérité tout entière. C'est un travail progressif. Et au fil de l'histoire de l'Église, il y a des passages d'Évangile ou de lettres de Paul qui reçoivent, parce que l'Esprit Saint continue à être à l'œuvre, un éclairage nouveau. Il n'y a pas de nouveau texte. Le canon des Écritures est clôturé, mais l'intelligence que nous pouvons avoir des textes peut grandir aussi si nous sommes accueillis au travail de l'Esprit-Saint. Donc il leur a donné d'entrer dans l'intelligence et de trouver aussi la manière de rédaction qui ferait passer leur message. Il ne suffit pas qu'ils soient souvenus, qu'ils aient fait un choix dans leurs souvenirs, qu'ils aient bien compris intérieurement. Mais il fallait encore qu'ils trouvent les mots pour bien transmettre ce qu'ils ont compris. Et ça, c'est ce qu'on dit, les Écritures sont inspirées, non pas au sens où Dieu inspire mot à mot le rédacteur, mais en fait, Il se sert quand même des capacités de rédaction des évangiles, chacun son tempérament littéraire, pour les laisser se déployer au service. On verra que l'évangile de Matthieu est bien construit dans son alternant de récits, de discours. Ben voilà, c'est une des forces de Matthieu que d'avoir su ainsi charpenter son évangile pour nous entrer dans cette intelligence. Voilà, j'en reste là aujourd'hui. C'est une leçon un peu plus technique, c'est pour ça que je vous enverrai le texte tout à fait intégral, mais qui aide à situer déjà un peu le genre évangile en général, et puis déjà quelques traits davantage propres à Matthieu, sur lesquels nous continuerons la fois prochaine, et nous entrerons. C'est pour ça que je vais vous donner d'emblée, aujourd'hui, à chacun déjà, copie du début de la transposition du Père Radermacher's. Alors, si vous voulez l'ensemble de la transposition, donc c'est l'équivalent de ce fascicule-ci, hein, mais en plus grand, un peu plus lisible. J'ai retravaillé un petit peu la mise en page pour que ça soit. Ça vous permet d'avoir le texte que vous n'avez pas peur de griffonner, d'annoter, etc. Tandis que dans votre Bible de Jérusalem ou votre Torah, vous hésiterez peut-être à commencer à publier tout côté. Tandis que ceci, ce sont des feuilles de travail. Je vous donne le début. Alors, si je vous donne l'ensemble, je devrais quand même vous réclamer, parce qu'il y a quand même l'ensemble du texte sur ici 80 pages à 4, je devrais vous réclamer 4 ou 5 euros à la fin. Ceci dit, étant prévenu, qui souhaitera, parce qu'alors je prépare mes paquets, qui souhaitera avoir l'ensemble de la transposition du Père Radermacher's, sur laquelle je me baserai pour ces larges. Ça va, je vais en faire une quinzaine. Mais pour le reste, vous pouvez suivre le parcours de l'Évangile dans une Bible courante. Mais ceci, c'est une transposition, c'est-à-dire qui respecte mot à mot le texte grec et qui vous permet de mieux mesurer, tiens, il a choisi de faire exactement telle expression, tandis que dans une traduction courante, selon le contexte, un même mot grec peut être rendu par un mot français différent. Ça, c'est le travail du traducteur. Donc, une traduction d'une Bible courante doit être dans un français suffisamment élégant. Ou une traduction liturgique doit se faire comprendre de ceux qui entendent la parole de Dieu. Tandis que si nous travaillons un peu techniquement, on va avoir une transposition qui forcément est moins élégante, mais techniquement très précise. Je vous en donne les premières étapes.